Alors, je vous invite à chercher dans votre Bible le livre d'Esdras. Esdras, c'est un livre qui nous parle, c'est un livre qui nous parle de la reconstruction de, du temple, et puis on espère aussi poursuivre avec la reconstruction des murailles de Jérusalem dans le livre de Néhémie. On a commencé cette série la semaine dernière avec le pasteur Samuel sur les chapitres 1 et 2. Et on est rendu au chapitre 3. Je vous invite à lire avec moi tout ce chapitre. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La deuxième année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères, les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs, des lévites, et les chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Ici, pour rappeler un peu le contexte, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, en 538 avant Jésus-Christ, l'Éternel a réveillé ce roi. Et il a mis dans son cœur le désir d'accomplir les prophéties de Jérémie sur le retour d'Israël à Jérusalem. Cyrus, il était le fils de Cambyse. C'était le roi de Perse. Et il était aussi fils de sa mère, comme nous tous, de Mandane, fille d'Astyage, roi des Mèdes. Donc il était à la fois un fils des Perses et un fils des Mèdes, ok ? Cyrus vécut jusqu'à la douzième année, jusqu'à sa douzième année, à la cour de son aïeul maternel, donc le roi des Mèdes. Et puis, à l'âge de 16 ans, il a été envoyé à la tête d'une armée contre le roi d'Assyrie. le roi d'Assyrie avait fait irruption dans les terres de Astiap, et Cyrus a remporté une magnifique victoire. Et puis il a été rappelé à nouveau par son père. Et il rentra donc en Perse et il devint général des troupes de Cambyse. Cambyse, donc c'est son père, il fit la guerre tantôt pour son propre compte, tantôt pour le compte de son oncle, Syaxar. Donc lui, il est du côté des Mèdes. Vous avez suivi les problèmes de famille, là ? Donc il y a les Mèdes et il y a les Perses. Il fait la guerre tantôt pour les Perses, tantôt pour les Mèdes. Ok ? J'essaye de résumer. Il a fait la guerre notamment contre Crésus, le roi de Lydie. Crésus, c'était celui qui était riche comme Crésus. Voilà. Et après avoir porté des armes un peu partout dans l'Asie mineure, il a repassé l'Euphrate et il a marché contre l'Assyrie et il vient assiéger Babylone. La ville de Babylone, c'est une ville imprenable. C'est une ville gigantesque. Il y a des murailles qui n'ont rien à redouter. Ses habitants ont des provisions pour 20 ans. Vous imaginez le temps pour assiéger cette ville. Et Cyrus vient là devant cette ville de Babylone et puis il assiège la ville. Et Cyrus, alors qu'on conçoit le projet gigantesque de détourner le cours du fleuve, de l'Euphrate, qui passe dans Babylone. Et là, le fleuve va se répandre dans les marais autour de Babylone, ce qui permet à l'armée de Cyrus de rentrer par le lit de la rivière et de pénétrer à l'intérieur de Babylone. Et là, vous vous souvenez, d'après Daniel, chapitre 5, Belshazzar, il sait qu'il y a Cyrus aux portes de Babylone, il rit. Et puis, il fait la fête avec toutes les grandes de son peuple. Et puis, il y a cette main qui vient écrire sur le mur. Et cette main lui dit, t'as été pesé, t'as été trouvé léger, et tu vas être condamné, jugé, dispersé. Et la nuit même, les armées de Cyrus pénètrent dans la ville, et là, ils prennent cette ville forte de Babylone. Cyrus la remet à son oncle, Syaxar, donc le roi des Mèdes. Et on pense que Syaxar, c'est ce fameux Darius. Il est appelé Darius le Mède à la fin du chapitre 5 de Daniel, et puis tout le chapitre 6, un homme bienveillant à l'égard de Daniel. Et en récompense, Cyrus reçoit en mariage la fille de Syaxar, sa cousine Germaine. Je pense que je vous ai perdu là. Avec... Germaine, ce n'est pas le nom de la cousine, hein. C'est sa cousine Germaine. Non. Comme il devient lié avec la famille des Mèdes, il reçoit de par son père le trône des Perses, et de par sa femme qui vient d'épouser sa cousine, le trône des Mèdes. Et donc il devient le roi, l'empereur des Mèdes et des Perses. Vous voyez le genre d'homme que c'est ? Un homme extraordinairement puissant qui a remporté tellement de victoires. À peine il est investi donc de ce royaume Mèdo-Perse, eh bien il va faire une chose extraordinaire, c'est qu'il va publier un édit par lequel il permet aux Juifs de retourner dans leur patrie. Et ça, c'est le chapitre 1, verset 2 qui nous avait dit « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux. » Vous avez vu comme il parle. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Et donc, il va renvoyer, écrire cet édit qui permet aux Juifs de retourner de captivité et de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Dieu avait prophétisé cela avant la naissance de Cyrus. Dieu savait déjà, il lui avait déjà donné le nom de Cyrus, et puis il lui avait dit, eh bien, que Jérusalem soit rebâtie et au temple qu'il soit refondé. Et à ce moment-là commence un nouvel exode, comme l'avait dit le pasteur Samuel, un exode bien faible puisque ce sont que quelques dizaines de milliers de Juifs qui rentre alors que tout un peuple avait été déporté. La chose s'est produite par la volonté de Dieu. C'est lui qui a réveillé l'esprit de Cyrus, son serviteur, pour accomplir les prophéties de Jérémie. Mais Dieu travailla aussi dans le cœur des chefs de famille, des familles de Juda, qu'il a réveillés, pour qu'ils se lèvent et qu'ils rebâtissent la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est ainsi que la nation d'Israël, humiliée, va connaître un nouveau départ, un recommencement à Jérusalem. Le baptême, c'est le symbole d'un nouveau départ, d'un recommencement. Dans nos vies, comme dans celles de la nation d'Israël, après que nous ayons parfois tout gâché, Dieu nous offre un recommencement, un nouveau départ. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, un nouveau départ. Et on verra tout d'abord que pour prendre un nouveau départ, il nous faut remettre la croix de Jésus-Christ au centre. On verra ensuite l'importance d'entreprendre la reconstruction et enfin savoir se réjouir des recommencements. Mais voyons d'abord remettre la croix au centre. Ça, c'est les versets du chapitre 3, le verset 1 à 6 que l'on a déjà lu. Ici, Jérusalem est en ruine. Le peuple vient d'arriver, ils se sont juste installés, ils ont reconstruit quelques maisons par-ci, par-là, pour pouvoir s'abriter, mais Jérusalem est en ruine. Le temple a été entièrement détruit. En 2 Chroniques 36, si vous retournez quelques pages en arrière dans votre Bible, vous pouvez lire avec moi les versets du chapitre 36, verset 19. Il est dit « Ils brûlèrent ». Donc ça, c'était au moment où Nebuchadnezzar a pris la ville de Jérusalem. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous les palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 années. Imaginez cette ville laissée en ruine, brûlée, détruite entièrement, et puis laissée à l'abandon pendant 70 ans. Voilà ce qu'ils retrouvent quand ils arrivent à Jérusalem. Il n'y a plus rien. Tout est dévasté. Et il arrive parfois que dans nos vies, tout est dévasté. Tout est en ruine, tout est a été gâché. Et ils sont arrivés le septième mois. Ils voient arriver le septième mois. Et dans la vie d'Israël, le septième mois, c'est un mois. C'est comme pour nous le mois de décembre. C'est-à-dire, c'est un mois extrêmement chargé, ou comme le mois de juin, je ne sais pas. Voilà. Il y a plein de choses, plein d'activités. Parce que les fêtes de l'Éternel avaient lieu soit le premier mois, soit le septième mois. Le premier mois, c'était le Pâques, Pentecôte, 50 jours plus tard. Mais après, il fallait attendre le mois de Tisri, c'est le mois le septième mois. Et le premier jour du mois, c'était la fête des trompettes. Là, c'était un grand rassemblement qui célèbre tout le rassemblement et la repentance d'Israël. Et puis, 10 jours plus tard, le dixième jour de ce mois, c'est Yom Kippour. Alors ça, c'est la fête par excellence, le jour du grand pardon. C'est le jour où le souverain sacrificateur va faire l'expiation pour le peuple dans le lieu très saint. C'est le seul jour où il peut entrer dans le lieu très saint et c'est le seul homme à pouvoir le faire. Et puis, 5 jours plus tard, le 15e jour du mois, et pour une semaine, commencent les festivités de la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles rappelle la sortie d'Égypte, comment Dieu les a délivrés et comment le peuple a habité sous des tentes dans le désert. Alors imaginez tous ces Juifs. Ils arrivent à Jérusalem, tout est en ruine, et ils se disent, mais voilà, c'est le septième mois. C'est le septième mois. Ça fait 70 ans qu'on n'a pas mis les pieds à Jérusalem. Ça fait 70 ans que toutes ces fêtes ont été abandonnées. Et maintenant, on a l'occasion de célébrer toutes ces fêtes. Mais il n'y a rien. Alors, Josué et Zorobabel vont commencer à reprendre les pierres du de l'autel et vont reposer juste les pierres. Tout est en ruine, mais juste l'autel. Ils vont commencer à reposer l'autel. Pourquoi ? Parce que chaque fête est centrée sur les holocaustes et sur les sacrifices. Et au fond, les holocaustes, les sacrifices, l'autel, c'était tout ce qu'il fallait pour rétablir le culte. C'est-à-dire le lien entre eux et Dieu. C'était la seule chose dont ils avaient besoin. La seule chose qui était indispensable. La seule chose qui pouvait les ramener vraiment dans la communion avec Dieu. La base du culte, c'est notre acceptation et notre communion avec Dieu sur la base d'une offrande, l'offrande d'une victime innocente à notre place. Nous n'avons besoin que de la croix de Jésus-Christ pour nous approcher de Dieu. La croix de Christ seule pour rétablir le lien avec notre Créateur, pour retrouver la paix avec lui. Nos œuvres, nos bonnes œuvres, notre fidélité passée, notre connaissance, tout cela ne peut nous introduire un seul instant dans la présence de Dieu. Seule la croix de Jésus-Christ. C'est la première et c'est la dernière chose par laquelle nous puissions nous approcher de lui. Et ça se fait simplement par le moyen de la foi. Il arrive que, en tant que chrétien, après avoir passé par ces moments et après avoir marché, on commence à s'être débarrassé d'un certain nombre de fautes, de mauvaises habitudes, de péchés. Puis on commence à être pas mal, quoi. Maintenant, Dieu va pouvoir m'exaucer parce que, quand même, je suis bien. Parce que quand même, ça fait des années et des années que je viens à l'église. Et Dieu dit, rien en toi ne peut te permettre de t'approcher de moi. La seule chose qui le permette, c'est l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Et si tu viens tel que tu es, dans la confiance, dans la foi, dans le sacrifice de Jésus-Christ, alors je t'accepte. Je t'accueille, je te reçois. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul, quand il est venu à Corinthe, il avait pour but de prêcher Jésus-Christ, de prêcher le Christ, mais pas le Christ comme un enseignant ou comme un exemple ou comme un homme parfait, mais simplement le Christ crucifié, celui qui devait mourir pour nos péchés. Christ comme victime expiatoire. Voilà la prédication de l'apôtre Paul. Si nous oublions Christ crucifié, alors nous oublions simplement ce que nous sommes. Nous oublions que nous sommes des pécheurs. Que rien en moi ne plaît au Seigneur, hormis la foi dans son Fils Jésus-Christ. Hébreux 11 dit, or, sans la foi en Christ, il est impossible de lui être agréable. Seule la foi en Jésus-Christ pour lui être agréable. Ce qui est merveilleux, c'est que ça, c'est à ce moment-là que commence le réveil dans nos cœurs. Quand on réalise qu'on ne peut rien apporter à Dieu pour le satisfaire. C'est là où on reconnaît que si on peut se tenir devant lui, c'est simplement à cause de sa grâce. Simplement à cause de son amour pour nous. Alors, immédiatement, il se passe quelque chose, c'est qu'on regarde notre frère, notre sœur en Christ. Comme nous, ou comme valant mieux que nous encore. Parce que nous connaissons mieux encore notre propre cœur que le sien. Et on voit l'unité se refaire. Immédiatement, on trouve au verset 1, Zorobabel et Josué, c'est-à-dire le souverain sacrificateur et le gouverneur unis comme un seul homme. Et tout le peuple prêt à rebâtir comme un seul homme. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui se produit dans nos cœurs l'instant où on revient à Christ. C'est l'unité dans nos cœurs avec nos semblables. Parce qu'on est tous sauvés de la même manière, avec le même accès à Jésus-Christ. Dans les livres des Actes, au chapitre 4, verset 32, il est dit, c'est juste après la Pentecôte, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » J'aime ça. Simplement parce qu'ils s'étaient vus tous devant Jésus-Christ. Deuxième chose qu'on pourrait voir ce matin, c'est d'entreprendre la reconstruction. Autant c'était rapide de retrouver la communion avec Dieu, puisqu'elle se fait simplement sur la base du sacrifice de Christ. Et là, ils ont rassemblé quelques pierres, ils ont fait un autel, ils ont mis un agneau sans défaut. Et puis la communion, la foi dans ce sacrifice, leur rétablissait dans leur communion avec Dieu. Mais il a fallu attendre bien longtemps pour que la restauration soit véritablement faite. 20 ans, c'est simplement en 516 avant Jésus-Christ que le temple a pu refonctionner. Ça faisait déjà 20 ans qu'ils avaient entrepris les travaux. Le travail allait connaître des temps d'arrêt, on verra ça les semaines prochaines. Il allait connaître des adversaires nombreux, mais aussi, vous allez connaître des prophéties. Agée, Zacharie allait encourager le peuple constamment à rebâtir jusqu'à l'achèvement. Au verset 7, il est dit que le peuple donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres aux boissons et des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour amener par la mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban. C'est ce que David avait fait. Il avait fait, pour préparer les travaux du temple, il avait fait venir des pierres, il avait fait venir du bois du Liban pour pouvoir construire. Et quand ils ont pensé à reconstruire, ils ont dit « mais il faut qu'on refasse pareil ». Ils ont commencé à reconstruire de la même manière. Ils ont voulu rebâtir selon les voies de Dieu. Tout le monde se met au travail, mais ils demandent aux Lévites de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Ça, c'est le verset 8. Hein, il est dit, ils chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. C'est pas juste surveiller que... Non, c'est conduire les travaux. Ça, c'est le travail du maître d'œuvre. La Bible dit ça, on va faire ça comme ça, comme ça. Qui doit faire ça? Un tel et un tel vont faire ça, parce que la Bible dit cela. Et ils remettent tout en ordre, ils veulent faire bien, ils demandent aux Lévites de diriger les travaux. Vous savez pourquoi ils étaient partis en captivité? Pourquoi Jérusalem et le temple avaient été dévastés? Et c'est le chapitre 36 hein, du 2 Chroniques qui nous le rappelle. Au verset 14, il est dit « Tous les chefs, les sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. » Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Ce qui a conduit le peuple en déportation, ce qui a poussé Dieu à envoyer Nebuchadnezzar et ses armées pour tout détruire, c'était parce que le peuple n'avait pas écouté Dieu. Il ne voulait pas construire comme Dieu l'avait voulu. Il ne se fiait pas aux Écritures pour bâtir l'œuvre de Dieu. Bien souvent dans notre vie, quand notre vie est en ruine, c'est parce qu'on n'a pas suivi ce que j'appelle le mode d'emploi du Créateur. Parce qu'on n'a pas pris au sérieux ses avertissements, les avertissements qu'il nous donnait. Que l'on n'a pas persévéré dans dans nos engagements, ou plutôt qu'on a persévéré dans notre égarement. Maintenant, nous revenons à Dieu par la croix et nous rebâtissons selon son plan, selon sa volonté. savez, c'est difficile d'entreprendre un chantier comme celui qui était devant eux. C'est difficile. Vous imaginez le travail qui est devant eux. Je vais chaque semaine dans nos nouveaux locaux. Je ne peux pas m'empêcher. Et chaque fois, je vois la tâche à accomplir comme plus grande. Les premières fois où j'y suis allé, oh, je me suis dit, c'est super. C'est super, là, juste un coup de balai, on installe les chaises, et dimanche, on a un baptême. Non, franchement, plus j'y vais, plus je vois l'ampleur de la tâche. Et c'est difficile d'entreprendre des grands chantiers de restauration. La tâche, elle est énorme. Mais il y a un petit mot qui fait la différence dans le verset 8 et dans le verset 9. C'est « Tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre. » Tous. Et puis, verset 9, il dit « Se préparèrent tous ensemble. » Tous ensemble. C'est ça qui fait la différence. Lorsqu'on entreprend la reconstruction, il faut travailler ensemble. Le drame, c'est que parfois, il y en a un qui dit « Ok, j'y vais. » Il s'y met et puis il fait plein d'efforts. Puis il est tout seul. Puis à la fin de la semaine, il voit le... Puis il dit « Mais... j'ai rien fait, en fait. J'ai cassé, mais c'est encore plus sale. » Et puis il est découragé. Alors il y en a un autre qui se lève et il dit « Moi, j'y vais. » Et puis il y va, et puis, ben pareil quoi, il fait son effort, et puis il est découragé. Ce qui change, c'est quand on fait l'effort ensemble. Quand on dit, ok, on construit et on va faire nos efforts conjointement. Il y a une synergie qui s'installe à ce moment-là. Et là, on commence à décupler nos forces. Il y a 10 ans maintenant, quand j'ai demandé à Samuel de rester, je lui ai dit, écoute, si tu restes, on ne va pas faire le travail de deux, le travail d'un seul à deux. Non, on va faire le travail de trois, au moins. Et c'est ce qu'on a pensé. Il nous faut mettre nos forces ensemble. Et là, il y a une synergie, un effort commun qui se crée. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Les choses avancent vite. Les choses avancent vite parce que chacun travaille dans le talent que le Seigneur lui a donné et il le fait valoir pour l'ensemble du corps. Et puis tous nos efforts commencent à payer et on est tous encouragés. Lorsqu'on entreprend la reconstruction, même si le travail est long, même si on sait que ça va prendre des années, on s'engage à le faire. Et à le faire ensemble, et à tirer ensemble dans le travail. Enfin, il faut, je crois, savoir se réjouir des recommencements. Juste après, ils attaquent les fondations. Alors vous voyez, il y a déjà, enfin juste après, 2 ans plus tard, ils attaquent les fondations. Il y a le temple, l'autel des sacrifices qui est en fonction, et puis il n'y a plus rien tout autour. Et ils commencent à tracer, rechercher des fondations, et puis creuser, et puis recommencer à la base pour tout reconstruire. Et quand ils font ça, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que, voilà, c'est pas fini. Mais déjà, on trace les lignes et on se dit, waouh, ça y est, on a démarré, on va y aller. Et ils font venir les chantres en costume, avec les trompettes, et puis en avant. Verset 11, il dit « Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. » Les louanges, c'était les mêmes chants qui avaient accompagné la dédicace du premier temple. Le premier temple, quand tout était fini, Salomon a réuni les chantres et ils ont commencé aussi à chanter. Et quand ce qu'ils ont chanté, c'est ces mêmes versets. Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et à ce moment-là, la Shekinah, la gloire de Dieu, est entrée dans le temple. Plus personne ne pouvait rester dans le temple, mais ils continuaient à célébrer les louanges du Seigneur. Mais eux, ils font ça au tout début. Ils apprennent à se réjouir de tout leur cœur. Et ils chantent « Car l'Éternel est bon ». L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous voyez, ils sont dans cette disposition de cœur où ils disent « Dieu est bon ». Il nous permet juste de recommencer à le servir et de reconstruire son temple. Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. Tout le monde se réjouit. Le peuple, le temple avait été détruit en 586. Donc, 50 ans plus tôt. Et donc, les personnes âgées ou les plus âgées, celles qui étaient âgées de plus de 60 ans, devaient se souvenir du premier temple et de la gloire du premier temple. Et en voyant simplement les fondations de ce second temple, se disait que ce deuxième temple n'égalerait pas la splendeur du temple de Salomon. La nation était petite, le temple était plus petit, le temple était beaucoup moins beau. La richesse qui avait caractérisé l'époque de David et de Salomon avait disparu. L'arche n'était plus là. La gloire de Dieu même n'était plus là. Et pour les anciens, il y avait de quoi pleurer. Il y avait de quoi pleurer. Et ils ont pleuré. Ils ont pleuré à grand bruit. D'un autre côté, pour ceux qui n'avaient pas d'éléments de comparaison, pour ceux qui faisaient partie de cette nouvelle génération, de ceux qui étaient nés en captivité, pour eux c'était grandiose ce qui se passait. On leur avait parlé de Jérusalem, mais maintenant ils y étaient. On leur avait parlé du temple, mais maintenant ils y prenaient part à sa reconstruction. On parlait des sacrifices, mais maintenant il y avait des sacrifices qui avaient lieu dans le temple. Et pour eux, c'était l'excitation et la joie, vraiment. Eux, ils n'avaient jamais vu le temple de Salomon. Ils avaient simplement grandi en déportation, et certainement, le psaume 126 dit que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et ça a été écrit à ce moment-là, au moment du retour. La génération qui a construit le nouveau temple n'était pas responsable non plus de la destruction du premier temple. Ceux qui pleuraient sur les faibles recommencements, c'était ceux qui avaient méprisé le temple quand il avait toute sa splendeur. On a parfois tendance à pleurer sur les jours d'autrefois. On dit « Ah là là, avant-guerre, c'était bien. » Moi je dis « Avant-guerre du Golfe, c'était bien. » Mais ce que Dieu veut, je crois, c'est qu'on prenne part dans les réjouissances. À un moment, il faut qu'on dise « Ok Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre aujourd'hui. » Quand on dit simplement « Avant c'était bien », parfois on finit par mépriser ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. On peut adopter une autre attitude, c'est celle de se réjouir de ce que Dieu fait maintenant. Dans les chapitres de Néhémie, à un moment, Esdras et Néhémie, ils viennent de lire la loi, tout le monde était effondré, parce qu'ils sont en train de montrer les exigences de Dieu. Alors le peuple dit, mais on mérite juste d'être condamné. Et ils leur ont dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Maintenant que vous revenez à Dieu de tout votre cœur, maintenant que vous entreprenez la reconstruction, gardez cette joie dans vos cœurs. Oh, c'est avec cette joie que vous allez bâtir la maison de Dieu. Prenez chaque pas fait dans le bon sens et réjouissez-vous pour chaque pas. Même si on le sait qu'il y a de nombreux pas encore à faire. Le baptême, on l'a déjà dit, c'est juste le commencement. Il y a encore de nombreux pas à faire. Mais si on ne se réjouit pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on va se réjouir? On doit se réjouir de chaque pas qui vont dans le bon sens du Seigneur. J'aurais terminé. En tant qu'Église, on va entreprendre un nouveau départ dans les prochaines semaines, les prochains jours, avec un chantier énorme. Ça fait des années, hein, pour ceux qui nous visitent, ça fait des années qu'on prie pour de nouveaux locaux, et puis voilà, on voit que maintenant c'est l'heure de Dieu, le moment de Dieu. On veut s'y engager. On veut s'y engager, il va falloir, premièrement, garder la croix au centre de nos vies. Sinon, on va se déchirer. Il y a suffisamment de décisions à prendre sur la couleur de la moquette ou pas de moquette pour se déchirer. Mais si la croix est au centre de nos vies, alors on va réussir à garder l'unité du corps de Jésus-Christ au sein de l'Église. Et puis, il va falloir entreprendre la reconstruction, c'est-à-dire se remonter les manches. Se remonter les manches et se mettre ensemble. Et puis il va falloir se réjouir. Se réjouir de chaque progrès, de chaque avancement, de chaque progrès dans nos cœurs en particulier, quand on est en train de servir le Seigneur. Mais peut-être individuellement. Votre vie, elle est peut-être en ruine. Peut-être votre vie est en ruine. Souvent la ruine, c'est le péché qui ravage tout, qui laisse rien en place, qui préserve rien, qui détruit tout, qui enlève toute joie, toute espérance. Remettez la croix de Christ, là, au centre de votre vie, et venez à lui tel que vous êtes en lui disant, Seigneur, j'ai rien à t'offrir, et je suis juste un misérable. J'aurais dû marcher avec toi. J'aurais dû comprendre plus tôt. J'aurais dû... Voilà. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais faites confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Lui, il est parfaitement ce que vous devez être et ce qui satisfait la justice de Dieu. Et il a été fait homme pour vous. Et il a satisfait la justice de Dieu. Peut-être c'est votre couple ou votre famille qui est en ruine. Alors, repensez cela. Mettez la croix de Christ au cœur de votre foyer. Revenez tel que vous êtes et vous allez voir que l'unité revient. Simplement quand on reconnaît que on ne mérite rien que la condamnation de Dieu. Et puis entreprenez la reconstruction aussi longtemps que ça peut paraître, aussi long que ça peut prendre. Commencez la reconstruction. Et puis, réjouissez-vous des recommencements qui nous sont permis de faire. Chantez à Dieu, louez Dieu pour sa bonté, car sa miséricorde dure à toujours. Ça signifie que vous n'avez pas épuisé la miséricorde de Dieu et qu'on ne peut pas l'épuiser. Elle se renouvelle chaque matin en votre faveur. Elle est là tout entière pour que vous puissiez vous appuyer sur lui et sur sa bonté. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage et qu'il vous aide à prendre un nouveau départ si c'est nécessaire. Que Dieu vous bénisse.